L'émotion, le silence, curieusement, la tristesse refait surface. Chacun sent venir le moment de grand malheur. Chacun tremble pour Jésus et pourquoi ne pas le dire pour soi-même ? Le seul qui ose exprimer la pensée de tous avec tout l'enthousiasme que vous lui connaissez, c'est Pierre. « Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. » Jésus doucement secoue la tête. « Ah, Pierre, en vérité, le coq n'aura pas chanté deux fois que tu m'auras renié trois fois. » On imagine ces lampes qui, faute d'huile, s'éteignent les unes après les autres, les candélabres dont la flamme se mêle de fumée, la fatigue, l'inquiétude qui monte, la peur qui serre les cœurs. L'un des douze interroge anxieusement « Où vas-tu, Seigneur ?» Cet homme-là n'a pas oublié que les douze doivent passer avec Jésus la nuit au Mont des Oliviers. Il n'a nul besoin de savoir où il va se diriger. Ce qu'il demande au Seigneur, c'est s'il lui reste quelques projets sur cette terre. En guise de réponse, c'est une méditation à voix haute que livre Jésus. Ceux qui sont là n'oublieront jamais les phrases qu'il a prononcées. Ils en noteront précieusement tous les mots. Croyez que je suis dans le Père et que le Père est en moi. En vérité, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Et encore, je suis la voie, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et surtout, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous comme je vous ai aimé. Il précise que là se trouve le nouveau commandement qu'il leur laisse. Quand vous songerez à Jésus, pensez toujours à cette phrase qui résume tout ce qu'il a enseigné. L'amour de Jésus pour les hommes est si grand qu'il va le conduire à donner sa vie pour eux. L'amour est donc à ses yeux essentiel à toute existence humaine. On prend congé du maître de maison, la nuit est fraîche, la lune luit dans le ciel, la ville dort. Jésus s'enfonce dans les rues désertes. 11 apôtres le suivent. Le 12e a disparu. C'est Judas.
Essentiel de la vie. Radio Oméga 90.9 FM stéréo.
Le petit groupe est sorti de la ville, a traversé la campagne, a gravi la pente de cette colline que l'on appelle Mont des Oliviers pour la simple raison que sur ses flancs poussent en abondance les arbres dont on tire l'huile. Cette huile si précieuse pour les peuples méditerranéens. Il y a là, au milieu d'un grand jardin, l'installation d'un paysan de réserve où l'on porte les olives fraîchement cueillies et aussi un pressoir avec ses meules de bois dur qui permet d'écraser les olives. En hébreu, pressoir se dit « Gethsémani ». Quand Jésus et les siens pénètrent dans le jardin, il est probable qu'il ait plus de minuit. Probable aussi que l'on a négocié avec le propriétaire le droit de s'abriter chez lui cette nuit-là. Chacun est las, agité de sentiments violents ou contradictoires. Jésus se tourne vers ses amis. « Asseyez-vous ici, moi j'irai plus loin pour prier. » Un signe au fils de Zébédée, Jacques et Jean, « Venez avec moi. » Ils le suivent jusqu'en leur lieu écarté où ils s'arrêtent. comme il a l'air accablé, jamais Jacques et Jean ne l'ont vu ainsi. Il murmure « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». C'est bien ainsi que, désespérés eux-mêmes, ils le ressentent. Il leur dit encore « Restez ici, veillez en même temps que moi ». Il s'éloigne d'un jet de pierre, dit l'Évangile, c'est-à-dire de la distance jusqu'à laquelle un homme est capable de lancer une pierre. Jésus s'agenouille, s'incline si bas que son visage touche la terre. De loin, Jacques et Jean l'entendent appeler, presque supplier avec quelle douleur. « Mon Père, s'il est possible, éloigne de moi ce calice. » Un calice, c'est un vase. Il est clair que Jésus ici pense à un vase rempli d'un breuvage si amer que la seule idée de l'absorber lui en est en horreur. Pleure-t-il, sanglote-t-il? Est-ce seulement sa voix qui tremble? Ils ne le savent pas. Jacques et Jean, mais ils comprennent que, comme tous les hommes, Jésus a peur de la mort. Si le Fils de Dieu s'est fait homme, c'est pour éprouver les joies et les espoirs, les souffrances et les terreurs que tous les hommes connaîtront et connaissent. Maintenant, il se tait, il prie toujours, mais en silence. La fatigue s'abat peu à peu sur les apôtres. Il semble à Jacques et à Jean que leurs paupières s'alourdissent. Il lutte un instant, le sommeil est le plus fort. Et la voix de Jésus les réveille en sursaut. Il est là, debout devant eux, infiniment triste. Ainsi, vous n'avez même pas pu veiller une heure avec moi ? Honteux, il le voit s'éloigner de nouveau, se remettre en prière. Il l'entend s'adresser au même interlocuteur invisible. « Père, si ce calice ne peut passer sous mes lèvres sans que je le boive, que ta volonté soit faite. » Et il était en angoisse, raconte l'évangéliste Luc. Au comble de l'angoisse, pour prier, sa voix s'élevait de plus en plus forte. Sa sueur coulant sur son visage devenait comme de grosses gouttes de sang et ruisselait jusqu'à terre. Quand un homme ressent une très grande peur, quand il éprouve une angoisse extrême, il arrive que l'hémoglobine, la matière qui colore le sang en rouge, passe dans la sueur. Ce phénomène très rare concerne plutôt les animaux, mais aussi quelquefois les hommes. Imaginez l'effroi des apôtres quand, réveillés de nouveau par Jésus et encore plus honteux de l'être, ils voient le visage de leur maître inondé de sueur et de sang. Une fois encore, Jésus s'est retiré pour prier. Une fois encore, il va venir réveiller les apôtres. Au flanc du Mont des Oliviers, une troupe armée s'avance. Dans la nuit, on devine des voix, des bruits de pas, peut-être celui d'armes qui s'entrechoquent. À ses disciples, qui viennent encore d'être surpris en flagrant délit de sommeil, Jésus lance avec quelque ironie « Maintenant, vous pouvez dormir, l'heure est proche où le Fils de l'homme sera livré. » Un instant plus tard, ébloui par la flamme des torches, effaré par l'intrusion dans le jardin d'une nuée de soldats, épées levées, de gardes munis de torches, d'une foule brandissant des bâtons et des épées, les apôtres bondissent sur leurs pieds. Certains s'éparpillent en tous sens, d'autres épouvantés restent figés sur place. Un homme surgit des rangs de ceux qui ont envahi le jardin, c'est Judas. Une difficulté inquiétait les prêtres du temple et les anciens. Comment, dans l'obscurité, reconnaître Jésus? Il s'en était ouvert à Judas. Il avait répondu « Celui que j'embrasserai sera Jésus ». Judas tient parole. Il s'avance au devant de Jésus. « Salut, maître, dit-il, et il l'embrasse. « Ami, dit simplement Jésus, qu'es-tu venu faire ?»« Judas, tu trahis le Fils de l'homme par un baiser ?» Les gardes du temple, les valets porteurs de torches, la foule, tout le monde hésite. Assurément, ces gens ne se sentent pas sûrs d'eux. La solennité de l'instant les dépasse, mais Jésus, sans attendre, vient vers eux. « Qui cherchez-vous ? » ?»« Jésus de Nazareth, c'est moi. » Pour eux, cette réponse, si simple, si nette, se révèle à ce point déconcertante que, loin de s'emparer aussitôt de Jésus, ils reculent en désordre. Une bousculade se produit. Certains tombent à terre et se relèvent sans oser mettre la main sur Jésus. Alors le plus bouillant des apôtres, Pierre, s'élance furieux. Il brandit une épée. L'a-t-il apportée avec lui ? L'un des gardes du temple l'a-t-il laissé tomber par terre ? Pierre en frappe le premier qu'il rencontre, un valet du grand prêtre. Il lui entame l'oreille, le sang coule. Jésus se jette entre les deux hommes. À Pierre, d'une voix tonnante, il ordonne « Rentre ton arme, celui qui frappe par l'épée périra par l'épée. » Il étend la main vers l'homme blessé, instantanément le sang cesse de couler. Il se tourne vers ceux qui sont venus l'arrêter. Il leur parle comme le ton de sa voix est amer. « Vous êtes venus à moi comme si j'étais un brigand, avec des épées et des bâtons, et pourtant j'étais avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. » Voilà qui les décide. Ils se jettent sur lui, s'en saisissent, ils l'entraînent. Les apôtres se sont enfuis dans la nuit. Un seul est demeuré, l'effroi sur le visage, Judas. Il était si sûr que Jésus désarmerait ses ennemis, sûr que sa puissance naturelle les disperserait et que la vérité enfin éclaterait aux yeux de tous. Rien de tout cela n'est arrivé. Celui que l'on emmène est un homme comme les autres, démuni, misérable, comme le sont tous les prisonniers quand on les arrache à la liberté. Ce vieil homme qui dévisage le captif aux mains liées que l'on a conduit devant lui s'appelle Anne. Ne vous méprenez pas, on donnait alors indistinctement ce prénom à un homme ou à une femme. Ainsi donc le voilà, ce fameux Jésus. Il y a, dans le regard du vieillard, plus de perplexité que de courroux. Au cours de sa longue vie, il a traversé tant d'événements de toutes sortes, sondé les véritables sentiments de tant de gens que depuis longtemps, il ne s'étonne plus de rien. Tout de même, c'est la première fois qu'il rencontre un vagabond qui se proclame le roi des Juifs. Anne est l'ancien grand prêtre du temple. Il a parcouru ce que l'on appelle une belle carrière. Que de profit a-t-il tiré de ses fonctions ? Un historien juif de l'époque écrit de lui « Nul de plus astucieux que lui pour s'enrichir, pour procurer aussi de bonnes places à sa famille. Ses 5 fils ont été comblés d'honneur et, quand il a dû prendre sa retraite, il s'est arrangé pour que son gendre, Caïphe, le remplace comme grand prêtre. » Le jour n'est pas encore levé. Et la loi juive interdit qu'un inculpé paraisse devant un tribunal avant les premiers rayons du soleil. Plutôt que de jeter Jésus en prison pour une heure, les gardes ont préféré le conduire devant Anne. Songeur, Anne tente de percer à jour l'homme silencieux. Il n'y parvient pas, il se laisse peu à peu gagner par un malaise qu'il s'explique mal et qu'il le déconcerte. Voici que tremblent les premières lueurs du jour. À quoi bon poursuivre ce face-à-face avec un muet ? D'un geste las, Anne commande aux gardes d'emmener le prisonnier chez Caïphe. Il attend le grand prêtre, savourant intensément ce moment qu'il a si ardemment appelé de ses vœux. Le plan se réalise de façon inespérée et tant mieux. Encore un habile, un malin ce Caïphe. Le procurateur romain Valerius Gratus l'a nommé pontife en l'an 18 de notre ère. Il le sera encore en l'an 36, longévité exceptionnelle dans une fonction dont l'instabilité est légendaire. Autour de Caïphe, voici les pontifes, les scribes, les anciens. Ce qui exaspère tout le monde, c'est la parfaite tranquillité de l'homme qu'on a conduit devant eux. Il attend, rien d'autre, rien de plus. Brutalement, Caïphe l'interroge sur son enseignement. Qu'est-ce qu'il prétend faire connaître ? J'ai parlé ouvertement du monde, répond Jésus. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent. Jamais je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont entendu ce que j'ai dit. Ma doctrine, ils la connaissent. A-t-on deviné quel dédain dans le ton de Jésus ? Les prêtres s'agitent. Il faut absolument découvrir et des témoins qui déposeront sur ce que l'on reproche à Jésus. La loi précise qu'il en faut 2. On les cherche, on les trouve, mais leurs propos se révèlent contradictoires. Tout ce qu'on peut retenir de leur déclaration, c'est que Jésus a dit « Je détruirai le temple édifié de la main des hommes et en 3 jours, j'en reconstruirai un autre qui ne sera pas fait par les hommes ». Ce n'est pas sur de tels propos que l'on peut bâtir une accusation. Caïphe va droit au but. « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu ?» Réponds, je t'en adjure, par le Dieu vivant. » Le lourd silence qui s'est installé, la tension qui pèse sur ces hommes, tout cela ne dure guère. Jésus confirme. « Tu l'as dit, je le suis. » Voilà donc enfin aux yeux de tous ces prêtres le blasphème, c'est-à-dire l'offense absolue à Dieu. Caïphe n'en espérait pas tant. Il se lève et théâtralement déchire ses vêtements en signe de deuil. Il ne s'agit pas d'une improvisation, c'était l'usage quand on obtenait la preuve d'un blasphème. Caïphe n'a plus besoin de rien, il ordonne aux gardes d'emmener Jésus. Le procès peut commencer, c'est devant le Sanhédrin qu'il se déroulera. Après la panique qui a suivi l'arrestation de Jésus, quelques-uns des apôtres se sont ressaisis. Ils ont osé rentrer dans Jérusalem, ont appris que Jésus se trouvait chez le grand prêtre. Ils se sont glissés dans la cour du palais. Il ne fait pas chaud, loin de là. Les valets ont allumé dans cette cour un grand feu. Jean et Pierre se sont approchés pour se chauffer. Dans le cercle, une servante aperçoit Pierre. Elle le dévisage, intriguée, et tout à coup elle lance « En voici un qui était avec le Nazaréen ». Maintenant, elle ne doute plus. « Oui, tu étais avec Jésus de Galilée. » Voici donc que Pierre est devenu le point de mire. Il nie. « Femme, je ne le connais pas, je ne comprends même pas ce que tu veux dire. » Apeuré, il préfère quitter cette cour. Il se glisse dans le vestibule du palais. Là, une autre servante le reconnaît. « En voici un qui était certainement avec Jésus de Nazareth. » À ce moment précis, un coq chante. Pierre ne le remarque pas. Il préfère regagner la cour. Se retrouve en butte aux soupçons des mêmes gens. Une fois encore, il nie. « Non, vous dis-je, je ne connais pas du tout cet homme. » Et même, il le jure.